RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, bienvenue à Poligny au terme de la 19e étape du Tour de France. On s'est encore une fois régalé aujourd'hui avec cette magnifique bagarre que se sont livrés les coureurs du peloton qui sont à deux jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. On aurait pu penser aujourd'hui qu'ils allaient lambiner en route. Eh bien, ça n'a pas été le cas puisque la bagarre s'est déroulée sur les 172 km de cette étape. Et une nouvelle fois, aujourd'hui, c'est un Slovène qui s'impose à l'issue d'une bagarre entre un Slovène et un Danois, comme pour le classement général. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est Matej Mohoric qui s'impose à l'issue de cette étape. Un vrai régal pour les amoureux du Tour et du cyclisme en général. Et le bouquet final devrait être du même acabit demain pour la dernière étape de montagne. Ce Tour de France est vraiment une cuvée exceptionnelle. On revient sur l'étape. C'était tout à l'heure dans l'Intégral Tour.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Salut à tous, bienvenue sur la route du Tour de France. C'est la 19e étape aujourd'hui. Oh là là, on voit presque la Tour Eiffel d'ici dans le Jura. L'étape s'était lancée tout à l'heure de Moirans en montagne à destination de Poligny. 172 km 800 au programme des coureurs aujourd'hui. Bagarre entre les baroudeurs et les sprinteurs, un peu à l'image de ce qui s'est passé hier. Les baroudeurs réussiront-ils une nouvelle fois à piéger les sprinteurs? Allons-nous assister aujourd'hui à la deuxième victoire d'étape française? On compte là-dessus évidemment et on compte sur Julien Alaphilippe et Warren Barguil qui sont donc dans le groupe qui cette fois-ci a réussi à prendre un peu d'avance sur le peloton. Le maillot vert de Philippe Sen revenir dans leur pas, terrible pour ces garçons qui ont fait beaucoup d'efforts et qui la renoncent. C'est terminé pour l'échappée, c'est terminé pour Julien Alaphilippe, pour Warren Barguil et les autres. Voilà Philippe Sen qui revient derrière. Pedersen aura du mal à remporter cette étape. Moins de 18 km avant la ligne d'arrivée à Poligny dans le Jura, terme donc de cette 19e étape du Tour de France. Le suspense est total. Les trois hommes de tête qui ont pris quelques secondes d'avance vont-ils réussir à garder quelques mètres, quelques secondes tout à l'heure sur leurs anciens compagnons d'échappée?
Il y a un match terrible qui est en train de se jouer à 17 km de l'arrivée. Il y a ce petit groupe de trois avec donc devant, on le rappelle, Kasper Asgreen qui est à nouveau à l'attaque, vainqueur hier. Il est accompagné de Matej Mohoric et de Ben O'Connor.
C'est exactement ce qu'il faut faire à 500 mètres de la ligne. Il va essayer de les plonger.
Ça y est, il est parti. Ben O'Connor sur le côté gauche de la route. Les deux hommes le prennent en chasse. Il n'a pas grand chose d'avance. Ben O'Connor,
mais c'était la seule chose à faire pour Ben O'Connor qui n'est pas forcément le meilleur sprinter. Il donne tout ce qu'il a. Kasper Asgreen dans la roue qui va aller le sauter. Matej Mohoric en très bonne position. C'est fini pour Ben O'Connor qui se relève. Il n'avait qu'une flèche à lancer, l'Australien. Ça sera pas la bonne. Et Matej Mohoric maintenant qui arrive à hauteur de Kasper Asgreen. Kasper Asgreen, vainqueur hier. Est-ce qu'il va le doubler? Oh, je crois qu'il gagne. Je crois que Kasper Asgreen a gagné. Je crois que Kasper Asgreen a battu Matej Mohoric pour la deuxième étape consécutive. Peut-être que Kasper Asgreen s'est imposé. Il faudra la photo finish ici à l'arrivée du côté de Poligny.
Cyril, tu penses que c'est qui?
Il me semble que c'est l'un ou l'autre, mais il me semble que c'est Asgreen.
Ils attendent. Oui, c'est Mohoric qui s'impose de quelques centimètres. La victoire pour Bahrain Victorious une nouvelle fois après Peyo Bilbao, après Wood Pulse. Eh bien, l'hommage à Gino Madère est complet.
Oh, les pleurs, il est en pleurs, Mohoric. Il est en pleurs.
RMC Intégral Tour.
Voilà, de la bagarre, de l'émotion, du suspense, il y a tout eu sur cette 19e étape du Tour de France. On va en parler jusqu'à 20h avec toute l'équipe de l'After. Jérôme Coppel, salut Jérôme.
Salut Christophe, salut messieurs.
Cyril Guimard, notre druide évidemment présent comme tous les soirs. Salut Cyril.
Oui, bonsoir.
Voilà, et Pierre-Yves Leroux.
Hello.
Ouais, ça fait mal, hein.
Ça fait mal. Tu pensais que c'était Asgreen, hein?
Non, mais moi j'avais parié sur Mohoric. Donc
d'accord.
Tu gagnais dans tous les coups. C'est ça, exactement. Ça bon, s'est joué à rien.
Ça c'est un boyau seulement. Il a fallu donc la photo finish. C'est l'étape la plus serrée depuis le début de ce Tour de France. C'est vrai que jusque là, dans les sprints, Philippe Sen réglait tout le monde. Une nouvelle fois, Philippe Sen aujourd'hui s'est fait piéger. On y reviendra tout à l'heure. D'abord, retour sur cette étape, sur le sentiment qu'elle vous laisse cette étape, Jérôme. Un régal. Pour tous les amoureux du vélo, quoi. C'est une bagarre incessante.
Bah, du début à la fin. Ça a castagné toute la journée. Ils ont fait quasiment 50 de moyenne sur un parcours loin d'être plein. Il y avait plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Ça a attaqué dès le début. On a vu un Mats Pedersen incroyable. Il est parti d'abord avec Lutsenko avant d'être rejoint par le groupe Alaphilippe et Warren Barguil. Mais ça n'a pas débranché de la journée. Même quand ils étaient 9 à l'avant, derrière, ça a roulé pour les équipes piégées. Et c'est sur finalement un sprint intermédiaire qu'on allait penser inoffensif. offensive, j'allais dire que Philipsen a continué son effort et ça a permis de créer un gros groupe, mais ça a pas débranché de la journée pour les 35 hommes de tête. C'est complètement fou. Oui, le groupe maillot jaune, ils ont roulé un petit peu moins vite, ils sont arrivés à un quart d'heure, mais on est en fin de troisième semaine, ils arrivent encore à rouler à 49 de moyenne. Chapeau, messieurs.
Ouais, chapeau. On regrette presque, Cyril, qu'il n'y ait pas une quatrième semaine de Tour de France, finalement, non?
Si, si, mais en fait, ils vont le mettre au féminin.
Oui, mais ce ne sera pas les mêmes.
Ah, ça ne sera pas les mêmes, oui, zut. Ah ouais. Oui, dommage. C'est marrant quand je pense qu'il y en a qui aimeraient que le Tour de France, qui dure 3 semaines, soit ramené à 15 jours, vrai pour le Tour d'Italie, vrai pour le Tour d'Espagne. Écoutez, 3 semaines, on en redemande.
Ouais. Oui, parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu 2-3 étapes où on s'est un petit peu ennuyé, mais bon, de temps en temps, il faut quand même aussi reprendre des forces.
Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis, toutes les étapes de transition sur des parcours vraiment vallonnés, on a eu de la course à chaque fois, hein, que ce soit dans le Massif Central ou ici. Et après, on a déjà dit, hein, sur ces étapes-là, il y a beaucoup plus de coureurs qui peuvent tenter des choses, alors que sur les étapes de montagne, certains ne peuvent pas. Ils attendent qu'une chose, c'est que le groupe Etos forme. Et c'est forcément les plus belles étapes. Aujourd'hui, pourquoi ça a roulé si vite? Parce qu'il y en a, ils savaient que le Tour de France, leur Tour de France se terminait ce soir. Demain, ils peuvent rien faire. Après-demain, ça sera pour les sprinteurs à Paris. Donc eux, ils ont mis toute leur dernière force dans la bataille. À l'inverse d'autres, je pense, on en parlera certainement après, mais je pense à un Thibaut Pinot, par exemple. Lui, il a rien tenté aujourd'hui, parce que lui, son étape, elle est demain. Lui, son Tour de France va se terminer demain. Donc, bien sûr qu'il allait forcément avoir de la grosse bagarre, parce que les baroudeurs, c'était vraiment leur dernière chance. Demain, ça peut être une échappée, mais faudra être un grimpeur avant tout.
Alors, on disait que ce Tour de France serait sans doute l'un des plus durs de ces 10 dernières années. On arrive quand même au bout de 2-3 semaines. Ils ont pas l'air très entamés, finalement, nos coordonnateurs.
Tu rentres dans le camp Cyril Guimard. C'est facile le Tour de France.
Mais nous, on va être dans le même camp, je pense. Pierre.
Bah oui, ils sont rincés, ils sont complètement rincés.
Attendez,
c'est un des Tours de France les plus durs de l'histoire.
Non, mais c'est un scandale d'être du même avis que M. Guimard ou d'aller dans son camp?
Ben non, mais quand il a tort, oui, c'est un mauvais choix.
Comme c'est 90% du temps.
Tu l'envoies dans la caillasse, c'est incroyable. Il va fermer la porte, il nous a expliqué,
je vais aller regarder si mes tomates sont bien.
Non, mais comment on explique qu'au bout de 3 semaines, ils aient autant de force encore à rouler à 50 km/h?
Une chance d'aller chercher une victoire. C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné sur ce Tour de France. Vous avez des équipes, Bahrain Victorious, qui en ont déjà gagné 3. Vous avez Alpecin de Kenin, qui en ont gagné 4. Donc, bien sûr que toutes les équipes veulent essayer de gagner une étape. C'était peut-être leur dernière chance pour certains. Et certaines équipes, donc eux, ils mettent leur dernière force dans la bataille. Ils savent très bien que quand ils vont passer la ligne d'arrivée à Paris, il faut que le moteur soit vide. Donc, le moindre brin de vie qu'ils ont, pour certains, ils l'ont mis aujourd'hui. Par contre, attention, parce qu'avec une étape comme on a eu aujourd'hui, certains pourraient rentrer à Paris un jour plus tôt que prévu.
Et puis, il y a aussi quelques coureurs qui ont passé une première semaine très difficile, une deuxième où ils étaient un petit peu mieux, et puis une troisième où ça y est, il y a du feu dans les jambes. On pense à Casper Asgreen.
Bien sûr.
On pense à Ben O'Connor aussi, également. Hein, attendu comme leader de la formation Jeux-Déserts Citroën.
Et lui.
Qui s'est raté dans les deux premières semaines et qui là retrouve des forces.
C'est ça, et lui,
certains coureurs comme ça qui trouvent des forces au bout de 3 semaines.
Mais en fait, il y en a, des fois, on arrive, la prépa n'a pas été super, et puis finalement, on a besoin d'une semaine, 10 jours pour monter en puissance et pour être mieux. Et puis les 10 derniers jours du tour, ça va bien, ça peut arriver sur les blessures. Au Tour de France 2013, on partait encore, j'ai été pris dans la première grosse gamelle du tour, j'ai eu 2 côtes fissurées, j'ai galéré pendant 10 jours, même mon père il me disait arrête, ça sert à rien, arrête. Et les 10 derniers jours, j'étais devant quasiment tous les jours, parce qu'après vous arrivez à vous refaire un peu. Casper Asgreen, c'est l'exemple parfait, et voilà, lui il arrive à être devant. O'Connor, je sais pas si on va entendre son interview, mais il disait là je me suis enfin retrouvé sur cette dernière semaine, je sais pas ce qui s'est passé les 2 premières semaines, mais là je me suis retrouvé maintenant, et voilà, il est devant. Par contre, il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils démarrent sur les chapeaux de roue et puis ils ont du mal à terminer. Nelson Paoles, il est encore échappé aujourd'hui, mais on l'a vu échapper tous les jours la première semaine. Un grimpeur comme ça, il ne doit pas péter dans une bosse de 3e catégorie aujourd'hui, normalement. Lui, il est rincé. Les trajectoires se croisent, des fois.
Bon, vous êtes rincé ou non? Vous avez encore des forces pour faire les 2 dernières étapes, les gars, vous?
Ça va aller, nous.
Ça va aller?
Ça va aller.
Comment ça va être dur quand même?
Groupéto quand même, hein?
Ah oui, plutôt.
On est plutôt groupéto.
Heureusement qu'on a Cyril qui peut sprinter sur les champs.
Oui, heureusement. Notre portier.
Ça a été tellement dur que j'aurais pas de jus pour faire le dernier sprint. Je crois qu'il, faut ajouter autre chose, parce que là, on fait le constat que ça roule vite, et que ça roule même très très vite, et que vous aviez quand même 34 coureurs à l'avant aujourd'hui après une castagne absolument extraordinaire. Ce qui veut dire qu'il y a encore des gens qui ont de l'influx nerveux, qui ont de la force, qui ont bien récupéré. Mais tout ça, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait que on a une maîtrise maintenant, alors une maîtrise de l'entraînement, des charges de travail, de la répartition de ces charges de travail, des intensités. Bon, et ce qui fait que quand vous prenez le Tour de France aujourd'hui, vous savez que vous pouvez tenir trois semaines d'efforts sur une épreuve aussi exigeante que le Tour de France. Il faut être prêt pour être au départ du Tour. Quand vous êtes prêt, sauf si vous faites des conneries, car rappelez-vous, je dis toujours qu'il n'y a rien qui se soustrait sur le Tour. Tout s'additionne. Et on va revenir à quelque chose que vous venez de dire. Paulès, il a commencé à faire des raids le premier jour. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ du Tour. Il faut jamais faire des raids les premiers jours.
Ah, il cherchait
la deuxième semaine,
des points
vous
de la
pouvez
montagne.
Commencer à les faire. Bon, Paulès, bon, ceci dit, il a fait le plein, hein. Il a réussi son tour. Ben, maintenant, il est un petit peu sec. Ben, ouais. Il est un petit peu sec, mais la première semaine, il a fait le plein, il a tout réussi. Bravo, il a porté le maillot de la montagne. Bon,
Il va pas le ramener à Paris en revanche. La montagne.
Oui, non, mais bon, il a quand même. Je suis désolé.
Oui, il s'est montré.
Il a quand même fait un grand Tour de France par rapport à d'autres, hein, bien sûr. Il est encore quatrième du classement de la montagne. On y reviendra d'ailleurs au classement de la montagne.
Parce qu'on ne sait jamais.
C'est un des rares classements qui a encore.
Ah, c'est le seul où il y a du suspense encore. Évidemment.
Là où il y a, du suspense. Mais quand vous voyez, par exemple. Je sais pas, vous m'avez bâché tout à l'heure, mais
bon,
quand vous voyez Thibaut Pinot et que vous voyez Julien Alaphilippe, ils peuvent pas aller gagner une étape. J'espère demain, mais c'est vrai que depuis deux jours, il s'est mis au chaud. Thibaut Pinot, vous pouvez pas aller chercher des étapes en allant dans tous les coups pendant trois jours ou quatre jours. Vous finissez obligatoirement sec. Et rappelez-vous ce que j'avais dit. Quand vous prenez, par exemple, Julien Alaphilippe, la dernière heure, il meurt.
Ouais. Alors, on en parlera tout à l'heure de Julien, Cyril. On en parlera dans quelques minutes de Julien, parce qu'il n'y a pas de victoire d'étape aujourd'hui pour Julien, mais il y a peut-être la possibilité d'aller chercher le statut de super combatif du Tour. On en parlera quand même. Même si tu n'aimes pas, on en parlera quand même. Allez, dans un instant, on revient toujours en direct de Poligny. On va revenir sur la victoire d'un Slovène, donc Matej Mohoric, qui s'impose aujourd'hui d'un boyau d'avance sur celui qui l'avait emporté hier, à savoir Casper Asgreen. On va vous raconter l'histoire de Mohoric. C'est dans un instant dans l'After Tour en direct de Poligny. À tout de suite.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
L'After Tour en direct de Poligny ce soir au terme de la 19e étape du Tour de France. Vous savez qu'il n'en reste plus que deux après celle-là. Hein, il y aura demain. Et puis après-demain, ce sera entre 20h et 21h, l'After, car l'étape va s'achever à 19h30, aux alentours du 19h30.
Mais on mange à quelle heure ?
On ne mange pas. On mange pas. On fait que boire le dimanche soir, tu le sais bien. Pierre-Yves. Revenons donc sur l'étape aujourd'hui remportée par Matej Mohoric. Mohoric, on va le prononcer à la Slovène. Troisième succès perso pour le Slovène sur les routes du Tour, qui s'était déjà imposé à deux reprises en 2021. Et troisième succès cette année pour la Bahreïn, qui possède, c'est vrai, un petit supplément d'âme et le souvenir de leur copain Gino Madère, qui doit les accompagner durant ce Tour de France. Drame qui leur donne vraisemblablement des forces supplémentaires, Jérôme.
Ben oui, on a l'impression qu'ils sont en mission, hein, cette équipe, vraiment pour rendre hommage à Gino Madère. Ils en ont parlé avant le départ du Tour, bien sûr, qu'ils aimeraient lui rendre hommage. C'est déjà arrivé trois fois avec leurs trois victoires d'étape. Mais voilà, ils ont un supplément d'âme, ils ont un truc, ils sont en mission, ils veulent vraiment, ils sont portés par le souvenir de Gino Madère. Et puis les interviews d'après-tour des trois coureurs qui ont gagné,
hein,
Bilbao, Wout Poels ou Mohoric, ben voilà, ils sont en larmes et on sent que ouais, Gino les habite un petit peu et les aide. Et franchement, les interviews à chaque fois, elles sont prenantes. Moi, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je les écoute et qu'ils parlent de leur ami Gino.
On va écouter d'ailleurs Matej Mohoric, donc tout à l'heure, ému lors de son interview après la victoire de cette 19e étape. On l'écoute.
It means a lot because
cette victoire signifie beaucoup de choses. C'est très dur d'être cycliste professionnel. On souffre énormément pendant la préparation, on sacrifie nos vies, nos familles. On peut pas arriver prêt ici. Toute la journée, je voulais donner le meilleur de moi-même. Je suis pas le seul à pouvoir gagner une étape du Tour de France. Tous les cyclistes méritent une victoire. Gagner ici peut vous changer la vie. C'est cruel que tout le monde ne puisse pas gagner une étape finalement.
Eh oui, c'est vrai, c'est cruel. C'est cruel notamment pour Casper Asgreen, on en parlera tout à l'heure.
Ouais, mais il avait gagné hier.
Oui, voilà, il avait gagné hier, donc c'est bien de partager avec les copains quand même.
C'est cruel pour Victor Campenaerts, je trouve, parce qu'il a bossé comme un fou depuis deux jours.
Ouais, mais vous savez, on est tous sur la route du Tour, on est tous des compagnons de galère en fait, parce que oui, des fois on est devant, des fois on est derrière, on est le groupe Eto, on doit s'accrocher pour essayer de rentrer dans les délais. On avait l'image de Simon Geschke là à Courchevel qui est arrivé pour une minute et quelques devant les délais. Donc bien sûr que tous les coureurs méritent de gagner une étape. On peut pas tous en gagner une, mais tout le monde mérite d'en gagner une. Et ouais, c'est une très belle interview hein, pour Mohoric encore une fois.
Matej Mohoric, Pierre-Yves,
on vient d'avoir l'écart exact
alors,
entre les deux.
Combien de centimètres
à votre avis?
Combien de micros?
4 centimètres.
6. Ouais. 6 centimètres, ça représente, à la vitesse où ils sont passés au moment de franchir la ligne, c'est-à-dire 58 km/h, ça représente 4 millièmes de seconde d'écart entre les deux.
C'est
après 172 800 km.
À 50 de moyenne.
Ouais. Imagine que c'est pas Asgreen qui termine deuxième, Asgreen qui a déjà remporté une victoire. C'est terrible pour celui qui est battu, parce qu'aujourd'hui on ne parle que Mohoric, on ne parle pas de Asgreen.
Ouais. Bien sûr, j'ai malheureusement un exemple qui nous fait toujours un peu mal des fois, c'est Brian Cochard. Il est passé à 2,8 cm d'une victoire d'étape. Il en gagnera peut-être plus sur le Tour. Ouais. Bien sûr, c'est pas ce qu'on lui souhaite, mais peut-être qu'il a raté là pour 2 cm la victoire de sa carrière.
T'imagines, Cyril, tous les garçons que tu as fait pleurer sur le Tour de France en les battant de quelques centimètres lors de ta grande carrière?
Oui, mais je ne le regrette pas.
Ah oui, mais toi, tu n'as pas de cœur. On le sait bien. On le sait bien, t'es un tueur.
C'est la compétition. Prenez un 100 mètres ou un 400 mètres ou un 10 000 mètres. C'est l'histoire de la compétition. Et c'est pour ça d'ailleurs que la compétition, sous quelque forme qu'elle ait lieu, c'est ça qui fait le piment.
Ouais.
Le piment, c'est pas de gagner avec 15 minutes. Le piment, c'est de gagner. Mais là, 6 centimètres, c'est énorme pour moi.
Hein. Ah oui.
Oui, mais on a eu plus court.
Il y a eu plus serré. Ouais. Alors, on va revenir sur Mohoric, Pierre-Yves. Mohoric, un peu le troisième Slovène. On pense évidemment à Pogacar, la méga star du cyclisme mondial, même s'il ne va pas remporter le Tour dimanche soir. On connaît aussi Roglic, vainqueur du Tour d'Italie. Et Mohoric, lui, il peut pas gagner le Tour de France, mais quel fantastique coursier malgré tout. Hein.
Oui, et puis c'est avant tout un style, celui du descendeur qui a donné son nom à une position. Vous voyez, le nez sur le boyau avant, les fesses posées sur le cadre. C'était il y a 10 ans, Froome d'ailleurs. Vous en souvenez, évidemment, il l'avait imité en 2016 pour aller s'imposer à Bagnères-de-Luchon au bas de la descente de Peyresourde. Et lui, c'est à Crangne, en Slovénie, avec ses copains d'enfance, que Mohoric avait travaillé cette position, que l'UCI d'ailleurs a interdit en avril 2021. Il y a eu ses titres de champion du monde junior et l'année suivante, champion du monde espoir, il y a 10 ans tout juste, qui lui avait permis de rejoindre Peter Sagan, son modèle chez Cannondale en 2014. Et là-bas, on le trouvait tellement intelligent, celui qui voulait devenir à l'époque ingénieur, qu'on le surnommait Mateipedia, en référence à Wikipédia, vous voyez. Et ensuite, il a été vainqueur sur les 3 grands tours, Mohoric. Et depuis, eh bien, il n'avait levé les bras qu'une fois autour de Slovénie, depuis sa victoire à Milan-San Remo, c'était en 2022. Là, vous vous en souvenez aussi, c'était avec une tige de sel télescopique. Lui qui était ingénieur, il s'était dit, tiens, ça peut être, qui rêvait d'être ingénieur, ça pourrait servir. Et pendant la course, il était allé voir Formolo. Il lui avait dit, il y a pas des hôpitaux là du côté du Poggio. Alors peut-être qu'il avait pas trop confiance dans le matériel. Après, il était allé voir Pogacar. Il lui avait dit, surtout me suivez pas dans la descente du Poggio, ça va être trop dangereux pour vous. Résultat, il était allé gagner Milan-San Remo. Personne n'avait voulu le suivre.
Après, ceci dit, il a quand même failli finir au cimetière.
Oui.
Exactement.
Pas à l'hôpital, mais au cimetière.
Exactement. Et puis, cette victoire du jour, elle est sans doute la plus émouvante de sa carrière, on le disait, après le décès de son coéquipier Gino Madère au Tour de Suisse. Il lui avait déjà rendu hommage après sa victoire en Slovénie il y a un mois, mais là, c'est encore un autre domaine. C'était effectivement très, très émouvant de le voir tout à l'heure répondre après la ligne. et sur le podium.
Mohoric qui se rate rarement dans ce genre de scénario, de situation. Il a le nez fin, c'est un sacré coursier, Jérôme.
Ouais, c'est un coursier qui, enfin, il sent la course. Il sait comment prendre les échappées. Quand c'est une étape qui lui convient, il rate pas l'échappée. Et si après, dans cette échappée, il a réussi à se créer une situation pour pouvoir gagner l'étape, il la rate pas souvent. Pourtant, c'est pas le meilleur des grimpeurs, c'est pas le meilleur des sprinteurs. Oui, c'est le meilleur des descendeurs. Donc, s'il y a une arrivée comme Milan-San Remo en bas d'une descente, il peut faire la différence. Mais il sent tellement bien la course. Voilà, fallait être au sommet. Donc il grimpe bien, mais pas que c'est pas un pur grimpeur. Il sprint bien, c'est pas un pur sprinter.
Oui, il a pas le talent de Pogacar et Roglic.
Il arrive toujours à se mettre dans la bonne roue et c'est un finisseur incroyable. On l'a vu aujourd'hui, hein, il est resté derrière Asgreen et il a laissé Asgreen faire l'effort. Asgreen aurait très bien pu se mettre derrière Mohoric. Et si Mohoric décide de pas y aller tout de suite parce qu'il sait qu'Asgreen va vite, peut-être que c'est O'Connor qui gagne aujourd'hui. Donc il court très très bien, il sent la course comme peu de coureurs. Hein.
C'est l'expérience, c'est le pif ou c'est le coup de bol qui lui permet de terminer 6 cm devant Asgreen aujourd'hui, Cyril?
Non, c'est le déroulement de la course tout à fait logique. Vous savez, je dis toujours et je me répète, mais bon, c'est comme tous ceux qui sont entraîneurs, lorsqu'ils ont des jeunes athlètes avec eux, ils répètent souvent les mêmes choses pour les faire rentrer. Il y a une intelligence de course, il y a une situation de course, il y a le risque qu'on accepte de prendre, accepter de perdre pour gagner. Si tu veux pas accepter de perdre, bah tu fais ce qu'il faut pour perdre. Et aujourd'hui, ça a été, c'est ce qui s'est passé. Imaginons un seul instant que Asgreen ne bouge pas sur O'Connor. Ben, je suis désolé, Mohoric ne gagne pas, ni Asgreen non plus d'ailleurs. Mais il y en a toujours un qui va faire la faute et il faut avoir suffisamment de charisme et de personnalité pour que l'autre sente que tu ne vas pas le faire. Donc il y va, et il est battu, même si c'est que de 6 cm. 6 cm sur un lâcher de vélo, c'est pas un lâcher de pigeon, sur un lâcher de vélo, pour moi c'est beaucoup 6 cm. Ouais. Et on le voit pas d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes pratiquement tous trompés, parce que les caméras, quand il y a un angle, on peut pas arriver à voir. Donc il y a une forme d'intelligence, oui, de sentir, mais Mohoric aussi, c'est aussi un gros moteur.
Ouais, c'est dommage.
Je voudrais
encore
revenir
une fois
sur le supplément d'âme dont on parle par rapport malheureusement au drame. Si aujourd'hui ils sont encore portés par ça, ça veut dire que le collectif, la qualité du collectif, la solidarité du collectif, elle existait avant le drame. C'est pour ça qu'elle continue à être aussi forte aujourd'hui.
Oui, parce qu'avant le décès de Gino Mader, la Bahreïn était déjà une redoutable équipe, même s'il y avait des soupçons un peu sulfureux autour de cette équipe.
Oui, mais il avait eu un petit geste, d'ailleurs, lors de sa victoire. Ouais.
Mais ça les avait encore plus ressoudés, parce qu'ils voulaient montrer que, d'une, c'était faux, et que, deux, même après tout ce qui s'est passé, que c'était toujours les mêmes coureurs, qu'ils étaient toujours performants et qu'ils gagnaient. Donc, bien sûr, bien avant l'accident de Gino Mader, ils étaient déjà soudés. C'était déjà une équipe qui était hyper soudée entre eux, quoi.
Très bien, 19h24 sur RMC. L'After Tour revient dans un instant. On va parler des battus. On va parler notamment de Philippe Sen, le maillot vert de ce Tour de France, qui une fois de plus s'est fait piéger aujourd'hui. Toujours pas de 5e victoire, c'est terrible pour Jasper Disaster. La dernière chance pour lui, ce sera dimanche sur les Champs-Élysées. Mais là, ce sera une grosse chance quand même pour Jasper. On en parle dans un instant et puis on s'intéresse évidemment à l'étape de demain, dernière étape de montagne de ce Tour de France en direction des Vosges, le Markstein. Cette étape sans la poudre. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Jusqu'à 20h, l'After Tour, toujours en direct de Poligny dans le Jura, où s'est achevée tout à l'heure cette 19e étape du Tour de France, remportée donc par Matej Mohoric, le coureur slovène de la formation Bahreïn. Magnifique victoire, on en a parlé, une bonne échappée qui s'est constituée très tard et qui comprenait pourtant de sacrés coursiers, dont le porteur du maillot vert, Jasper Philipsen, qui s'était fait piéger hier et qui a encore été piégé aujourd'hui. Alors, comment on explique ça? la pancarte qu'il portait dans le dos qui était peut-être trop grosse, Jérôme, ou alors quelques erreurs et peut-être pas la volonté de rouler derrière l'échappée qui s'est constituée en fin d'étape.
Oui, alors bien sûr, la pancarte qu'il avait dans le dos, ça incitait déjà pas les autres à rouler avec lui ou s'il roulait à pas donner 100% de leur capacité. Mais je pense là où il a fait une erreur, c'est quand ce groupe s'est formé. Au début, vous savez, quand Christophe Laporte est rentré le dernier sur ce groupe, là, il a pas roulé pendant quelques kilomètres. Il était dans les trois derniers. Enfin, il était d'ailleurs dernier. Il prenait pas ses relais. Je pense qu'il devait se dire, mais les autres vont voir que j'ai Mathieu Van Der Poel et ils vont rien me dire. Oui, sauf qu'il était pas non plus avec des lapins de six semaines. Et Trentin et Mesgec sont venus, ils sont mis derrière lui. Ils lui ont dit, si tu roules pas, moi je roule pas. Mais tout le temps que ça se passe,
bah,
c'est
pas du
temps que vous reprenez. Ouais. Et après, une fois qu'il s'est mis à rouler, il a bien compris que lui aussi, fallait qu'il roule pour essayer de reprendre les échappées. En plus, là, il prenait ses relais, mais il passait juste son vélo, il insistait pas. On voyait, le contraste était saisissant, parce que des fois, on avait Mats Pedersen qui prenait le relais derrière lui, qui lui, en plus, emmenait 100, 150 mètres de bout droit avant de s'écarter. Et après, en plus, il se permet de râler, Philipsen. Donc, tu peux pas râler sur les autres pour dire, ah, il faut rouler plus vite, faut y aller, faut que les relais montent. Si vous, vous en avez sauté une dizaine au début, et que quand vous les prenez pas à fond. C'est pas juste. Donc là, au bout d'un moment, ben, il va se mettre quelques coureurs à dos, et puis.
Tu le sens, Jérôme? Quand un coureur prend des relais légers tout de suite,
mais immédiatement. Bien sûr, parce que des fois, si le coureur est derrière vous, vous prenez votre relais, vous vous écartez, puis vous voyez qu'il arrive à peine à vous doubler, alors que vous, quand vous êtes écarté, vous ralentissez pour aller vous mettre en bas de la file, bah lui, il arrive à peine à vous doubler, c'est bien qu'il force pas, et dès que sa roue arrière a passé la roue avant, boum, il se décale tout de suite devant vous, c'est limite s'il vous touche pas la roue avant. Mais ça, c'est qui, dans le jargon, on dit, fait que passer son vélo. Bah, c'est ce qu'il faisait, Philipsen, sauf à la fin.
Et en plus, il regarde le coureur qui le suit pour lui dire, vas-y.
Voilà,
quoi.
En disant vas-y. Parce que lui, par contre.
Et il a l'habitude qu'on l'amène vers les sprints aussi. Donc puis, il n'avait pas de coéquipier aujourd'hui. Donc il espérait que les sprints
fassent
pour lui.
Comment faire pour qu'un autre coureur prenne un bon relais? Quand vous avez pris votre relais, vous vous écartez. Normalement, vous ralentissez l'allure pour aller vous mettre à la fin. Et bah, lui, il s'écarte. Et là, il continue à bien rouler. Comme ça oblige l'autre coureur qui monte à rouler un peu plus vite pour pouvoir s'écarter.
Quel escroc.
Bien sûr, ça, c'est des petites magouilles. Mais tu peux te permettre de faire ça quand
Non, mais ça, c'est du métier. Jérôme, tu l'expliques très très bien. Bon, pour quelqu'un qui a jamais fait de vélo, c'est difficile à comprendre. Mais on sait, vous savez, quand vous êtes dans la roue, vous savez si le mec qui est devant il met ou il met pas, ou s'il retient. Et je peux vous dire que ça, vous avez besoin de 30 mètres pour ça. Bon.
Tu là, parlais pas de Jérôme quand tu disais quelqu'un qui a jamais fait de vélo, j'espère.
Non, justement, je l'ai félicité pour la qualité de son explication et la capacité à faire en sorte que le béotien puisse comprendre. Donc, je suis désolé de dire que c'est une très belle explication.
Magnifique.
Ne vous en déplaise.
Qu'est-ce que tu lui envoies comme fleur hein,
c'est incroyable. Je sais pas, mais je sens qu'il va y avoir un coup de couteau.
Il se passe quelque chose.
Ouais. D'ici dimanche, non, alors, c'est pas possible.
Puisqu'on est sur le cas de ce.
De Jérôme Coppel.
Non, pas de Jérôme Coppel, non. Mais. C'est marrant parce que Philipsen, pour lequel j'avais.
Tu l'aimes moins.
Je trouvais que c'était pas mal. Ce qu'il fait depuis deux jours, c'est pas beau.
Très bon. Mmh. Oui, c'est sûr. Non, c'est, il est en train
ce qu'il
de faire
hier, c'est
des
pas
points,
bon.
Là, hein.
Bon, d'accord. Ça veut dire qu'il devient. Il se prend pour le patron, alors qu'il y a quand même Pogacar et Vingegaard qui sont quand même un petit cran au-dessus. Mais là, il essaye de régner en chef.
Bon. Puis il a quand même un certain Mathieu Van Der Poel aussi.
Oui, mais justement, je veux venir à Van Der Poel. Et là où je dis que. Il y a un petit souci, ou je veux dire qu'il y a un petit souci, c'est que quand on regarde l'étape comme elle s'est produite aujourd'hui, voire hier, j'ai le sentiment qu'il a complètement pris l'ascendant sur Van Der Poel au point d'en faire son serviteur.
Oui, ouais, c'est fou ça.
Parce que rappelez-vous un moment, Laporte sort avec Van Der Poel. Van Der Poel, il se comporte comme un serviteur de Philipsen, il prend pas un seul relais. Alors que s'ils prennent deux relais, ils sont rentrés sur le groupe des trois devant.
Je te coupe juste deux secondes là-dessus, Cyril, parce qu'on avait Jimmy Turgis tout à l'heure et qui nous expliquait qu'il était à cet endroit-là, pile à cet endroit-là, quand il a vu passer Laporte et Van Der Poel. Il dit, j'ai pas compris si Van Der Poel a dit, je peux pas passer, mais si c'était je peux pas parce qu'il était à bloc ou si c'est je peux pas parce qu'il avait des consignes.
Ben, moi, à mon avis, il a roulé après, hein.
Ouais, il a roulé après, ouais.
Bah oui, puis il a roulé, t'es costaud.
Ouais.
Mais moi, je ne comprends pas qu'un monsieur qui s'appelle Van Der Poel, avec le statut qu'il a, à un moment, c'est pas Philipsen qui se met à son service comme dans une étape comme aujourd'hui. Là, je comprends pas. Il y a quelque chose là qui me dépasse.
Voilà. Jasper Philipsen, évidemment déçu, même si le maillot vert, il l'a sur les épaules, sans doute définitivement.
Mais on s'en fout qu'il soit déçu.
Bah ouais. Bon, on va quand même l'écouter. Tu veux bien l'écouter quand même, Jasper?
Ouais, je veux bien l'écouter. Oui, voilà.
Allez,
je garde même les oreilles ouvertes.
Like to win like last year on the Champs-Élysées would be really nice, but.
Et gagner une nouvelle fois sur les Champs-Élysées comme l'année dernière, ce serait incroyable, mais d'abord il faut se concentrer sur l'étape de demain, course difficile encore. J'espère qu'il m'en restera dans les jambes pour dimanche. Voilà, il évoque plus l'étape de dimanche que
l'étape d'aujourd'hui. Il a déjà effacé de son disque
déjà
dur.
Déjà celle d'aujourd'hui, il l'a effacé. Voilà. Donc Van Der Poel, tu vas bosser
peut-être
pour...
qu'il a répondu.
Van Der Poel, tu vas bosser pour moi aux Champs-Élysées.
Oui, voilà, exactement.
Van Der Poel sera équipier. C'est quand même incroyable que le vainqueur de Milan-San Remo de Paris-Roubaix fasse ce tour uniquement dans la peau d'un équipier. Hein.
Ben, et pas que.
Je pense que sur certaines étapes, il avait carte blanche, notamment aux Pays-Bas, ce qu'on l'a dit tout au début de ce tour. Mais même peut-être qu'aujourd'hui, il avait autant sa carte que Philipsen, à condition qu'en haut de la bosse, il soit dans un groupe et que Philipsen ait pété. Là, Philipsen a réussi à basculer en haut de la bosse. Ben après, je pense que la stratégie est revenue sur Philipsen.
Alors, dans ce groupe se trouvaient également plusieurs Français, dont Christophe Laporte, qui semblait très fort aujourd'hui. Il lui a manqué un petit quelque chose pour rejoindre les trois hommes de tête. Se trouvait également Julien Alaphilippe, qui a beaucoup donné tout au long de l'étape, qui est à l'origine de l'échappée et qui a ensuite en a redonné. Malheureusement, il lui manque toujours ce petit supplément de jambes dans le final. On va écouter donc Julien, qui va probablement terminer ce Tour de France sans victoire d'étape.
On a encore roulé extrêmement vite toute la journée. C'était une bonne situation pour nous avec le retour du groupe derrière avec Casper et voilà, il a anticipé avant les forts pourcentages de la dernière difficulté et voilà, j'ai cru que ça allait le faire encore, ça n'a pas manqué grand chose. À partir du moment où on était tous les deux devant, c'était, comme je viens de le dire, une situation parfaite pour nous. Il y avait beaucoup d'équipes bien représentées et des coureurs très rapides aussi, donc c'était important d'essayer d'anticiper et c'est ce que Casper a fait. Il avait encore des très bonnes jambes, je pense, pour pouvoir faire ça. Et à partir de là, ouais, moi, je suis resté derrière. J'ai espéré pour lui que ça marche. Et j'ai entendu à la radio dans les derniers mètres qu'il fallait attendre la photo finish. Donc, après la journée qu'il a fait hier, chapeau. Non, je me sens de mieux en mieux, c'est sûr. Mais il manque encore un petit quelque chose pour jouer la victoire. Et j'ai pas de regrets encore parce qu'aujourd'hui, ça a roulé très, très vite. Et il fallait vraiment avoir les jambes pour être devant. Fallait vraiment être très fort pour ressortir dans le final. Donc non, je pense que c'est une bonne journée pour nous, même si ça aurait été encore magnifique de gagner. Je pense que si on nous avait dit ça il y a quelques jours, on n'y aurait pas cru parce que ouais, Casper, là, ce qu'il vient de faire ces deux derniers jours, c'est vraiment, vraiment super.
Voilà, Julien Alaphilippe, déçu évidemment pour son équipier. Il n'y aura pas de deuxième victoire consécutive pour Casper Asgreen et donc pas de victoire pour Julien sur ce tour parce qu'on ne le voit pas en position de remporter l'étape de demain ni celle de dimanche. Julien qui pourrait se rattraper donc en décrochant le titre de super combatif du Tour de France, mais c'est loin d'être fait, Jérôme. Alors on discutait tout à l'heure off the record justement de ce statut de super combatif. On nous expliquait qu'il fallait être super combatif d'une semaine, ce qui n'a pas encore été le cas pour Julien.
Ouais.
Mais il y a d'autres possibilités quand même.
Oui, oui, c'est pas tout à fait comme ça, c'est à moitié vrai. Je vais vous lire le règlement. C'est lors de chacune des deux journées de repos, les internautes désignent un combatif intermédiaire. Donc ça, c'est les combatifs qui sont élus sur une semaine, comme Thibaut Pinot vient de l'être. Désigne un combatif intermédiaire parmi une liste de coureurs soumis par les membres du jury. Les deux élus intègrent la liste des prétendant au titre de super combatif. Cette liste est soumise aux membres du jury, blabla. Donc, il y a les deux-là qui sont intégrés automatiquement à une liste. Après, il y a un jury qui va désigner son super combatif à lui. Et après, ils vont voter. Celui qui a le plus de votes gagnera.
Tu peux voter, toi, par exemple, Jérôme ?
Non, je ne suis pas dans le jury.
Tu n'es pas dans le jury,
mais tu connais rien au vélo, donc
c'est normal. Tu fais partie des internautes.
Oui, alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a le jury, et après, on peut voter aussi sur Internet. Il y a une voix pour via les réseaux sociaux.
Ce sera une toute petite voix. Alors,
voilà, tu vas voter pour qui, toi ?
Alors quels sont les nominés?
Alors on les a pas, on les aura demain.
On les aura demain.
Oui, mais de la première semaine et de la deuxième semaine.
Et en plus, je vais te les donner les deux, mais il y en aura qu'un seul qui pourra postuler au prix du
Solès.
Non, parce que c'est Wout Van Aert, le super combatif de la première semaine. Mais comme il a abandonné, il ne peut pas être dans le classement.
D'accord.
Alors, est-ce qu'ils vont prendre le deuxième? Ça, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, ils ont bien mis que les deux élus intégrés via le combatif intermédiaire, sauf en cas d'abandon. D'accord. Donc, Wout Van Aert.
Donc, Thibaut Pinot, lui, fait partie.
Thibaut Pinot, c'est bon. En imaginant qu'il n'y avait aucun des jurys.
On connaît le nom du vainqueur, alors.
imaginant qu'il n'y avait aucun des jurys qui avait proposé Thibaut Pinot dans la liste, lui serait automatiquement.
Alors, messieurs, je veux un nom. On est français, on voudrait avoir un français.
On veut avoir la liste d'abord.
On est français, on voudrait quand même avoir un français sur le podium final dimanche soir. Donc il y en a deux quand même qui sortent du lot, c'est Julien et Thibaut.
Qui est le pour qui? Super combatif.
Alors ce soir, maintenant.
Qui est le super combatatif?
Maintenant, on n'a pas vu la table de demain. Thibaut pourrait tout renverser demain. Voilà, ce soir, Julien Alaphilippe.
D'accord. Pierre-Yves?
Pareil.
Julien Alaphilippe. Cyril?
Julien Alaphilippe.
Ok. Arnaud Souk?
Pareil.
Julien Alaphilippe.
Julien Alaphilippe.
Ok.
Donc, il faut vraiment qu'il fasse un numéro demain.
Hein. Je vais vous dire, ce sera vraisemblablement Thibaut Pinot qui sera désigné super combatif.
Oui, mais personne n'en doute.
Alors, ça dépend de l'étape de demain. Ça dépend de l'étape de demain, mais s'il est à l'avant, vous savez que c'est son dernier tour quand même.
C'est pas ça qui
est Julien. Le classement est objectif et il n'est pas affectif.
Mais oui, mais c'est pas objectif, c'est un truc subjectif.
Mais non, pas du tout.
N'en parlons pas si c'est subjectif.
Non, parce que qui on pourrait rajouter dans la liste? Kampenaerts, par exemple.
Mais non, mais ce sera un Français.
On va dire qui on pourrait rajouter dans la liste. Kampenaerts, il vient d'avoir deux jours de suite le prix énorme. Du combatif de l'étape. Nylands, qui était toujours devant.
Ouais. Avec Chris Nylands, il était
devant aussi.
Chris Nylands, il est au-dessus.
Ah ben voilà.
Ok, donc vote pour Nylands.
En plus, il s'est planté la gueule dans une descente.
Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est la plus belle chute.
On verra si la préférence française est accordée par le jury.
Mais elle le sera, on le sait déjà.
Entièrement français, d'ailleurs, le jury du Super
Christophe,
on donnera les
on le sait déjà. Demain.
On le sait déjà.
Bien sûr.
C'est l'apothéose de la carrière de Thibaut.
Mais non.
Mais si.
On verra. On se posera la question de dimanche. On verra. Enfin, je pense qu'on l'aura dit même dimanche en début d'après-midi.
D'ailleurs, si on demande aux internautes, la question se pose même pas.
Ah oui, pour les internautes, c'est Julien. Forcément, Julien.
Non, c'est Thibaut.
Ah, c'est Thibaut, d'accord.
Non.
On est très partagés, évidemment. Ce sont les deux stars du peloton français. Et ils ont chacun leur public, chacun leur supporter. Demain, il y aura d'ailleurs le collectif Ultra Pinot qui sera en position pour cette étape. Rapidement, Jérôme.
Rapidement, une année, le super combatif avait été donné à Sorensen, qui était tombé en tout début de tour. Il n'avait rien fait, finalement, sur le tour. Il avait été pluché partout au doigt. Pourquoi on ne pourrait pas mettre un Adrien Petit, par exemple, comme super
il
combatif?
Il a été combatif lors
du il aurait pu être super combatif.
Tout à fait.
Okay. Il y a un autre point qu'il faut savoir.
Cyril, rapidement,
tu croises les doigts dans 15 secondes.
Non, mais c'est déjà fait.
Le sponsor, il veut qui? Celui qui parraine.
C'est qui?
Il veut la personne la plus importante sur le plan de la communication exploitable.
Bon, les deux sont.
Les deux, c'est kiff-kiff quand même, Cyril.
Non, mais si vous parlez de petit, Adrien.
Ah oui. Allez, il est 19h42, reviens dans un instant pour évoquer l'étape de demain, cette dernière grande étape du Tour de France dans les Vosges en direction du Markstein. C'est la journée de Pinot, on le souhaite évidemment. Et y aura-t-il une bagarre à nouveau entre Pogacar et Vingegaard? Pogacar va-t-il jouer à l'orgueil demain? La réponse avec l'équipe de l'After dans un instant.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
La dernière ligne droite dans cet after tour, la dernière ligne droite dans l'after tour en général, puisqu'il ne reste plus que deux éditions de l'after tour. On sera très triste évidemment dimanche soir de vous quitter. Alors demain, je vous le disais, 20e étape de ce Tour de France entre Belfort et le Markstein, une étape que tout le monde évoque depuis de longues semaines. On va se tourner vers Arnaud qui nous a rejoint, le grand blessé du Tour de France. Il est là, fidèle au poste, un guerrier. C'est un guerrier, notre Arnaud. Terrier.
On va lui donner la prime de la combativité.
Il y a quand même une sacrée bosse.
C'est peut-être moi le super combatif en fait.
Le super combatif, c'est Arnaud.
Mais oui, bien sûr, on va tous voter pour Arnaud. Super combatif et qui a donc repéré cette étape.
C'était il y a un moment.
Il y a un moment.
C'était à l'automne dernier.
Ah ouais. Il va s'en souvenir.
Il faisait froid, il y avait de la neige, non ?
Non, il n'y avait pas de la neige. Il y avait des vaches qui pâturaient.
Repéré en vélo.
La pollution.
Repéré en vélo, bien sûr.
La pollution avec les vaches. Ah là 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 là.
Je l'ai fait en voiture.
Bon alors, ça ressemble à quoi ?
Alors, cette étape qui arrivera donc au Markstein au départ de Belfort, 3471 mètres de dénivelé positif répartis en 6 difficultés, 133 km dans ce massif des Vosges. Les organisateurs vont espérer voir cette étape potentiellement décisive, mais le scénario des derniers jours semble avoir balayé définitivement cette hypothèse. N'empêche, Christian Prudhomme, le patron du Tour, est fier de proposer pour la première fois dans l'histoire du Tour une étape de montagne dans les Vosges, la veille de l'arrivée à Paris.
Quand j'étais gamin, je me souviens des pages Saumon de Cyclisme Magazine où il y avait eu un article sur la montagne, pas seulement les cols à plus de 2000 mètres. Là, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire qu'on a des terrains d'expression un peu partout en France, avec des pentes raides, des cols un peu moins longs sans doute qu'ailleurs, mais où les coureurs peuvent s'empoigner.
Voilà, car les cols des Vosges, et on le verra demain, sont loin d'être les plus faciles. Et si l'apéritif du Ballon d'Alsace ne devrait pas créer de gros remous pour les plus costauds, le col de la Croix des Moinas et ses rampes à 10%, puis le col de la Grosse Pierre et sa traverse surtout de la Roche placée en milieu d'étape devraient éparpiller le peloton en 1000 morceaux, comme cela avait déjà été le cas en 2014 sur le Tour 1,2 km. Donc pour cette fameuse traverse de la Roche, c'est, on l'appelle le mur de huit local, hein, 12,2% de moyenne et des pourcentages max jusqu'à 18%. De quoi faire des différences selon Thierry Gouvenou, l'homme qui avec son Crayon trace chaque année le parcours du Tour de France.
On essaie de faire comprendre aux gens que le vélo, c'est pas que dans les Alpes et les Pyrénées.
Mettre trois grands cols dans les Alpes, ce n'est pas la garantie d'avoir du spectacle.
Et on s'aperçoit dans le cyclisme moderne que c'est ce genre de pente qui fait vraiment la différence. Parce que si on met une pente régulière, bon, ils calculent leurs watts, ils arrivent à lisser leurs efforts. Sur des pentes comme ça, il peut se passer des choses intéressantes et notamment des défaillances.
Voilà, d'autant qu'avec ce format donc hyper raccourci de 233 km, c'est sûr qu'il va y avoir du spectacle dans la deuxième partie de l'étape. Notamment, il y aura l'ascension du Petit Ballon, 9 km 800 à 8,1% de moyenne et des routes particulièrement inhospitalières au bitume très granuleux. Et puis ça finira par le col de Platte-Servacelle. Là aussi, ça sera difficile, 7 km 100 à 8,4% avant la petite descente, toute petite de quelques kilomètres vers le Markstein. Station où jadis gagna plusieurs épreuves de Coupe du Monde, Ingemar Stenmark, le Suédois.
Ah, oui. Ingemar Stenmark. Magnifique, magnifique. On a hâte d'y être. Hein. J'imagine que tu as hâte d'y être avec ta moto-ambulance demain.
Hein. Exactement. Plus je vais une ambulance. Distribuer les pansements demain. À quel endroit.
Très bien. Jérôme, c'est vrai que les Vosges, comme ça, dans l'imaginaire collectif, c'est moins prestigieux que les Alpes ou les Pyrénées. Tu les as fait, les Vosges.
Oui,
C'est aussi dur, sinon mais plus dur.
C'est aussi dur, oui. Même peut-être plus dur. Une étape courte, l'école un petit peu moins long. Il y a beaucoup de coureurs présents sur ce tour qui ont dû passer par une épreuve connu des quand on est jeune, c'est le Tour d'Alsace, et je peux vous dire qu'on passe souvent ces cols là il y en a partout. Arnaud l'a dit, les routes sont granuleuses, les cols sont pas forcément très longs, même si on en a deux qui font une dizaine de kilomètres, mais ils sont assez raides, la route rend pas, on arrive en dernière semaine de Tour, l'avant-dernière étape, on peut avoir un gros chantier, hein. sur 133 kilomètres, c'est souvent là qu'on a les étapes les plus explosives et qu'on a vraiment de la course.
Et celui que tout le monde attend demain, c'est donc évidemment Thibaut Pinot, qui est chez lui dans les Vosges, qui dispute son dernier Tour de France et qui a donc une dernière occasion de remporter une nouvelle étape du Tour. Thibaut, que nos reporters ont rencontré, c'était ce matin. Alors, va-t-il mettre au fond demain sa réponse ?
Ouais, c'est sûr que c'est dur de connaître l'étape mieux que moi. Après, ouais, ça fait pas tout malheureusement. C'est quand même les jambes qui vont parler. Donc on verra, mais en tout cas, on s'attend à une course comme on a eu sur le Tour avec du spectacle. Le tracé a été bien créé, donc ouais, il y aura tout faire pour faire une belle étape. Ouais, je m'attends un peu à ce que j'ai connu sur le Tour, on va dire, mais peut-être un cran au-dessus. Et bah, c'est vrai que je suis vraiment pressé d'y être. Ça va être une belle fête, j'espère que je serai devant pour profiter vraiment de cette ambiance. Il y aura sûrement de l'émotion parce que je me dis que ce sera mon dernier call et mon dernier call sur le Tour, ça sera spécial, je pense, demain.
Voilà, son dernier col sur la route du Tour de France, ça va être un moment particulier. Tous ses supporters seront là demain pour l'encourager, pour l'acclamer. Alors, petite info là qui nous arrive ce soir, petite polémique concernant justement la formation Groupama FDJ. puisque le patron de la formation Jumbo a balancé sur l'équipe de Marc Madiot.
Oui, en fait, c'est une interview qui vient de paraître sur le site de nos confrères de l'équipe. Donc, longue interview de Richard Plugueux. Et les premières questions sont autour de la suspicion. Alors, voilà, il dit, nous, les portes, elles sont ouvertes depuis très longtemps. Et il y a plein de gens qui viennent nous voir sur les stages, etc. Et puis, il rebalance de l'autre côté. Il dit, on regarde aussi autour de nous ce que font les autres. Par exemple, on était avec une équipe française à notre hôtel durant la journée de repos. Bah, nous, on peut vous le dire. Et d'ailleurs, c'est dit dans l'article, puisqu'on sait où ils étaient. Ils étaient avec l'équipe Groupama FDJ. Et c'était à la veille du contre-la-montre. On voyait des coureurs boire de grandes bières. L'alcool, c'est du poison. Et surtout, quand vous êtes déjà fatigué, vous allez l'être encore plus. Au début de la dernière semaine du tour, qui est la plus importante, il faut faire très attention à ce que vous buvez et mangez. Nous, personne n'a bu d'alcool parce que ça vous casse. Et même ceux qui ne sont pas coureurs ne devraient pas en boire. Donc, c'est un tout, un ensemble. On peut ouvrir nos portes, répondre à toutes les questions, mais il faut aussi montrer l'autre côté parce que ça explique aussi une partie des différences. Pas seulement en notre faveur, mais en défaveur des autres. Peut-être que finalement, demain, ça va se jouer dans la descente du petit ballon pour Thibaut Pinot.
Ou du grand ballon. Cyril, je t'entends rigoler là depuis 5 minutes. Là.
Oui, ou ça va se jouer dans un virage, une petite queue de poisson, je ne sais pas. Parce que là, c'est une forme de queue de poisson quand même.
Ah bah oui, oui, une jolie queue de poisson. Ouais.
Belle queue de poisson. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Richard Plugueux ou non? On n'a pas le droit de boire une bière contre la montre.
Moi, je vois pas. Alors, si vous pensez que l'alcool est pas bon pour vous et que vous aimez le chrono, par exemple, et que le lendemain c'est un chrono, moi, par exemple, j'aurais pas bu une bière à cette journée de repos là.
Rattrapé depuis.
Mais
alors.
Avant le départ, t'en aurais bu.
Mais si le lendemain ça a été une étape de plaine où j'avais rien à jouer et que j'avais eu la journée de repos la veille, mais oui, j'aurais bu une petite bière. Pour mon mental, ça m'aurait fait plus de bien que le reste, quoi.
Ouais, Cyril.
Oui, bah, il y a des études qui sont sorties il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus, qui était une étude anglaise, où on disait que après une journée d'effort en termes de compétition, boire une bière après l'arrivée permettait de donner une certaine euphorie et accélérer la récupération. Bon, chacun a ses études, hein.
Très bien. Bon, on verra demain si les coureurs de la formation Groupama FDJ sont dans le coup pour remporter cette étape et notamment Thibaut Pinot. On va d'ailleurs passer au pari tout de suite. Il nous reste très peu de temps pour parier et on accueille tout de suite Yoann Bredov.
Ah, c'est dommage, j'avais tellement d'autres choses à dire.
C'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Tu as toujours beaucoup de choses à dire, Cyril. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une heure, malheureusement. Salut Yoann.
Salut les gars, salut à tous.
Avec un magnifique coup réalisé aujourd'hui par Pierre-Yves. Hein.
Eh oui, cote de 12, c'est bien ça, je me trompe pas, Pierre-Yves.
Ouais. Attends, parce que ça c'était la cote aujourd'hui, mais moi c'était hier.
Non, t'as voté ce matin, il va pas nous la faire.
Voilà, pendant la course en plus, donc voilà, cote de 12 de
à 5 km de l'arrivée, c'est facile.
Non. Il a dû remonter quand même.
Ils étaient 50 au moment où j'ai dit.
Il passe en tête quand même.
Non, il passe pas en tête. Non, il passe largement en tête.
Ça va jouer sur le dernier week-end. Hein.
Exactement. T'es à moins 57 euros. Tu te rapproches du positif quand même, Pierre-Yves. Et Christophe est à 72. Donc voilà, faudrait que tu passes une cote de 11 ou 12 encore pour espérer passer devant.
Oui,
devant
ça va pas être dur.
Je suis assez serein. Enfin, j'étais moins serein quand même quand la porte était dans le coup tout à l'heure. J'ai bien cru que Jérôme. Parce que là, il y avait une grosse cote.
C'est la thématique, la porte. Actuellement, chez nous.
Allez, principaux favoris, Johan, est-ce que tu as les cotes pour demain?
Bien sûr, je les ai. C'est Jonas Vingegaard qui est favori, côté à 3, Tadej Pogacar à 6, Félix Gall à 9, Simon Yates à 13, Peyo Bilbao et David Gaudu à 20, ainsi, évidemment, que Thibaut Pinot qui lui aussi côté à 20. C'est Arnaud qui est dernier.
C'est Arnaud qui est dernier. Bah ouais, il a vécu deux journées difficiles quand même.
Arnaud est passé dernier pour 1 euro quand même, donc tu paries en premier.
Il va parier sur la porte.
Je vais pas parier sur la porte.
Rapidement, il nous reste 40 secondes.
Pogacar,
côté à 6. Cyril, à toi.
Michael Landa.
Michael.
C'est pareil.
C'est en basque, Michael.
Je sais pas. Moi, faut que je vise une grosse cote. Ben O'Connor
qui cotait à 40. C'est à moi et moi je suis obligé de parier sur Thibaut Pinot.
Évidemment.
Thibaut Pinot coté à 20.
Jamais un risque. Hein. Mais...
Pierre-Yves, à toi.
David Gaudu
coté à 20 également. Et Christophe, tu conclus.
Jonas Vingegaard.
Ok. Ah. Bah, jamais un risque. Coté à 3, le Danois.
Épicier.
Il y a 3. Ah non, je crois qu'il était plus.
Ouais, c'est le favori de l'étape.
Bah vas-y, tu peux changer encore.
Non, je le garde. Je le garde. Voilà. Merci, Johan.
Merci à vous.
Winamax. On se retrouve demain.
Le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et rendez-vous demain à 14h pour l'intégral tour, pour ce dernier grand rendez-vous du Tour de France. En attendant, vous avez rendez-vous avec Thibaut Jean-Grand dans un instant pour l'Afterfoot. Bonne soirée, à demain 14h.
RMC, l'After Tour.